BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Aujourd'hui, à l'occasion du prochain départ de la Route du Rhum, émission spéciale autour du sponsoring voile. On en parlera avec Antoine Mermeau, le président de la classe IMOCA, avec Virgile Caillet, expert en marketing sportif, Stéphanie Bérard-Geste, directrice marketing de Charal, et Laura Le Goff, la directrice générale de la SAEM Vendée, qui organise le Vendée Globe. Et puis on ira aussi prendre des nouvelles de Paul Meillat, que BFM Business suit depuis quelques temps et qui cherche un nouveau sponsors pour prendre le relais d'SMA. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et cette semaine, on reçoit Charlotte Bricard de la rédaction de CB News. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Honneur aux dames aujourd'hui. Et Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Alors Charlotte, cette semaine, on a découvert les ambitions de Capgemini dans la pub.
Oui, le groupe vient de recruter une figure du secteur, Jean-Pierre Villaret, ex-président de Young & Rubicam. Mais que veut faire Capgemini dans le secteur de la pub? La réponse de son patron, Paul Hermelin.
Nous voulons mettre en valeur notre expertise des données, les données des clients. Donc nous ne sommes pas intéressés par la partie création, marque, donc toutes les parties stratégie. Donc ce que nous, on pense, c'est que notre monde, c'est le monde des données. Dès qu'il y a des données, nous voilà. Donc on a besoin de gens qui parlent avec ces nouveaux clients, le directeur du marketing, donc Jean-Pierre Villaret, nous rejoint parce qu'il a un niveau de dialogue avec les clients que nous n'avons pas. Mais on ne va pas aller rivaliser avec Publicis ou WPP dans la création et le marketing publicitaire.
Ouais, Frédéric Roy, on va pas rivaliser avec WPP et Publicis. Non, ils vont les acheter en fait.
Oui, un petit peu plus tard. C'est-à-dire quand ils se seront affaiblis, ils remettront probablement la main dessus. Ils essaieront en tout cas.
Allez Charlotte, on s'intéresse aussi à Castorama qui alors arrête les promotions.
Oui, gageant que les promotions brouillent les repères et que les consommateurs sont perdus, le DG France de Kingfisher a annoncé que l'enseigne de Brico Déco revoyait sa politique en la matière. Fini la quinzaine des prix, l'enseigne promet désormais à ses clients des prix bas tous les jours du mois, tous les mois de l'année. Un chantier soutenu par une campagne portée notamment par un film retraçant les 49 ans d'existence de la marque et signé Castorama. C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas.
Et puis la CNIL, alors épingle une nouvelle start-up toujours dans le ciblage publicitaire, c'est ça hein?
Absolument, la Commission nationale informatique et liberté a mis en demeure Single Spot, qui est une start-up de ciblage publicitaire pour avoir exploité les données de géolocalisation de ses clients sans leur accord préalable. C'est la troisième depuis l'entrée en vigueur du RGPD le 25 mai dernier. Des mises en demeure toujours très médiatisées qui concernent toutes les trois des start-up qui développent des kits de logiciels permettant notamment de récupérer des données de géolocalisation ou autres d'utilisateurs de smartphones sans consentement préalable.
Et puis, à quelques jours du départ de la Route du Rhum, un acteur inattendu, Charlotte, fait son entrée dans le sponsoring de voile.
Oui, il s'agit de Netflix. Dans le cadre du lancement de sa série Narcos Mexico, Netflix a choisi de s'associer à ce sport et à la voile en sponsorisant un bateau, celui de Sam Goodchild. Les visages des personnages de cette série attendus sur les écrans le 16 novembre dernier s'afficheront donc non en 4x3, mais sur les voiles du marin qui compte parmi les favoris dans la catégorie des classes 40.
Merci Charlotte, vous avez formidablement bien amené notre sujet de la semaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Antoine Mermeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la classe IMOCA, association de classe qui gère les monocoques de 60 pieds. Alors, pour faire simple, c'est les bateaux qui sont alignés sur le Vendée Globe, c'est ça?
Exactement, les 30 bateaux qui participent au Vendée Globe, tous les 4 ans.
Quel est votre rôle exactement, alors vous?
Alors, mon rôle, et en particulier le rôle de la classe, c'est d'une part de gérer tous les règlements techniques qui permettent aux bateaux de fonctionner dans toute sécurité, aux skippers de pouvoir faire les régates dans des conditions d'équité sportive parfaites. Et c'est aussi de s'occuper du calendrier, c'est-à-dire qu'avec avec cet organisme, on choisit notre programme sur 4 années, on discute avec les courses et on organise finalement la façon dont vont fonctionner les bateaux, les participants avec les courses pour en tirer effectivement le meilleur bénéfice des partenaires de nos skippers par rapport aux partenaires des courses.
L'idée, c'est quand même de simplifier un peu la course au large, parce qu'il y a 6 classes, des courses qui ont des tailles différentes, des longueurs, et du coup, le grand public comprend pas forcément les enjeux, quoi.
Alors effectivement, c'est un point faible de notre sport. La voile, c'est un petit sport. un sport passionnant, certes,
oui.
Mais effectivement, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de catégories, il y a trop de catégories,
ouais.
Et du coup, dans une classe comme l'IMOCA, on essaye d'unifier les skippers, de travailler avec les courses pour précisément rendre l'ensemble du système plus lisible pour les spectateurs et pour les fans.
Et pour les sponsors.
Et pour les sponsors, évidemment.
Mais justement, comment est-ce qu'on allie à la fois l'attractivité sportive et la rentabilité des sponsors? Est-ce que c'est toujours compatible?
C'est toujours, évidemment. C'est-à-dire que s'il y a un intérêt sportif, s'il y a un exploit sportif, s'il y a un engagement du skipper qui permet d'arriver à un résultat, forcément ça renvoie une image très positive. Et de fait, le partenariat se nourrit de cette image, tant au niveau de l'image que veut renvoyer la marque qui va être à côté du skipper, mais aussi par rapport à l'ensemble des collaborateurs, des différents acteurs de ce sponsor, qui va aussi se nourrir de cette histoire et de la réussite et de l'engagement en tout cas du skipper.
Et c'est quoi l'avantage c'est quoi l'argument, on va dire, de la voile par rapport à d'autres sports? C'est plus propre, c'est un sport qui est dans l'air du temps, qui a...
Alors l'argument de la voile au niveau du partenariat, il y a une partie de visibilité. C'est vrai que on a la force de pouvoir donner le nom de nos bateaux à nos partenaires, donc le naming qui est quelque chose au niveau visibilité qui fonctionne bien. On est aussi un sport qui ne vend pas ses droits d'image, donc on est un sport qui est très diffusé. Donc au niveau visibilité, on arrive à être relativement compétitif. On a la partie interne, parce que vivre une aventure de 3 mois sur un Vendée Globe avec tous ses salariés autour d'un skipper, c'est la seule compétition qui peut durer et qui peut autant fédérer les gens, et surtout sur la longueur. Donc on a des retours vraiment très positifs des partenaires. Et le troisième point, qui est un point qui prend de plus en plus de place dans nos partenariats aujourd'hui, c'est tout le volet développement durable. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de communiquer sans délivrer un message, sans s'engager pour les partenaires. Et c'est vrai que la voile, c'est un sport qui, du fait que c'est un sport qui est sur les océans, qui a beaucoup de valeurs très positives et très porteuses, qui est très compatible en fait avec le volet RSE indispensable des entreprises. Donc ça, on sent depuis quelques années que ça prend une part de plus en plus grande de nos partenariats.
Merci beaucoup Antoine Mermoz. Je rappelle que vous êtes le président de la classe IMOCA. Et c'est vrai que cette question des sponsors dont on parlait à l'instant est véritablement cruciale pour les skippers. Elle conditionne généralement d'ailleurs leur départ sur les courses. SMA par exemple s'était engagé aux côtés de Paul Meillat pendant 4 ans. Et maintenant le skipper doit donc trouver d'autres modes de financement. Comment ça se passe? On voit ça avec ce reportage à Saint-Malo sur le village de départ de la Route du Rhum. C'est avec Marie Valogne.
Après la Route du Rhum, l'objectif de Paul Meillat, c'est le Vendée Globe en 2020. Mais pour ça, il a besoin d'un nouveau sponsor. Après 4 ans de collaboration, son partenaire SMA arrête le sponsoring voile. L'entreprise change d'orientation stratégique, mais l'assureur épaule son skipper dans sa recherche de nouveaux financements.
SMA m'a permis cette année déjà au niveau de la communication d'avoir des moyens de production, de vidéos, de dossiers, de contenu. On a fait des web-séries qui ont assez bien fonctionné. Et puis aussi, ils me permettent d'avoir des temps de disponibilité de bateau pour faire naviguer des gens, pour faire visiter le bateau à des potentiels prospects sur le départ de course.
Paul Meillat profite du prochain départ de la Route du Rhum pour tenter de convaincre d'éventuels partenaires. Sur le village de course à Saint-Malo, près de 60 personnes visitent le bateau tous les jours. Le skipper augmente son réseau, présente son projet et l'équipe qui l'entoure. Une situation à laquelle les skippers sont régulièrement confrontés, comme l'ancienne navigatrice Catherine Chabot, qui suit le parcours de Paul Meillat.
Un skipper, c'est avant tout un chef d'entreprise, et je pense que Paul l'incarne parfaitement. Il faut à la fois piloter une équipe, une écurie et mettre au point un bateau, piloter aussi une équipe technique, mais il faut aussi comprendre les attentes d'un potentiel partenaire, monter un budget.
Un budget financé soit par une seule marque via un naming, soit par une association de plusieurs sponsors. Et pour y arriver, Paul Meillat a besoin de 2 à 3,5 millions d'euros par an d'ici le prochain Vendée Globe.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et cette semaine, c'est avec Valérie Potin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors, on parlait des sponsors, mais il y a aussi des skippers qui partent sans sponsor, c'est ça Valérie?
Oui, et c'est une particularité que partage la Route du Rhum avec le Dakar. On trouvera, au départ de cette course, des concurrents, un panel assez éclectique finalement de concurrents, tant en termes de notoriété que de palmarès, que de typologie aussi de bateaux, de budget, puisqu'on est sur des budgets qui vont de plusieurs dizaines de millions d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. Alors c'est vrai qu'il va y avoir parmi eux des skippers qui vont partir sans sponsor, certains par choix, parce qu'ils sont passionnés et propriétaires de leur bateau, mais aussi d'autres parce qu'ils n'ont pas trouvé de sponsor. Et là, on arrive sur une autre bizarrerie, on va dire, du milieu de la voile, qui veut que le sponsor ne va pas systématiquement vers le plus titré ou le plus connu. C'est ainsi qu'on va voir un Morgan Lagravière, ex-skipper de Safran, ne pas prendre le départ cette année faute de sponsor. Un Loïc Perron qu'on ne présente plus, ouais, qui va s'aligner au départ lui, mais sans sponsor. Et de notre côté, on va voir un Manuel Cousin qui est un marin aguerri, mais qui est un vrai amateur et qui lui va partir à la barre de Cetin, du nom du groupe Cetin, qui est un quincailler industriel.
Mais alors qu'est-ce qui explique cette situation?
Alors la première raison, c'est que ces skippers, on leur demande souvent d'être à la fois des super managers, des super marins, des super porteurs de projets, des super communicants, des super VRP, ce qui est assez compliqué finalement à cumuler, il faut qu'ils soient des couteaux suisses. L'autre raison, c'est qu'il y a une vraie part d'irrationnel finalement dans la voile. Elle a de belles valeurs, on lui connaît des propriétés pour développer sa notoriété, pour nourrir l'image de marque, fournir de belles valeurs et de belles histoires à raconter. Mais bon nombre d'engagements sont toujours aujourd'hui guidés par des rencontres plus que par une vraie stratégie de marque. C'est typiquement le coup de cœur entre Manuel Cousin et Éric Cetin, le patron, ouais, du groupe Cetin, qui explique que le groupe se soit engagé jusqu'en 2021, ce qui est quand même pas rien. Pour d'autres, malheureusement, comme Alexia Barrier, qui elle est pourtant une des seules femmes engagées sur la course, ou pour un Fabrice Payen, qui est un skipper qui a été amputé d'une jambe et qui a donc une prothèse, donc il y a un vrai défi physique. Bah pour ces deux-là, malheureusement, la rencontre n'a pas encore eu lieu, elle n'a pas encore abouti. Ce qui fait que ils vont, malgré de beaux profils, malgré de beaux projets aussi associatifs derrière ces deux personnes-là, ils vont prendre la mer sans avoir bouclé leur budget.
C'est pas un peu dangereux ça, Valérie, quand même?
Alors, tous les marins qui prennent la mer ont généralement ce qu'on va appeler un budget minimum vital, qui est financé soit sur fonds propres, qui peut être financé par des mécènes, qui peut être financé par des partenaires, mais qui sont des petits partenaires. Donc ils n'arriveront pas à financer finalement toute l'ambition du projet. C'est le cas d'Alexia Barrier, c'est le cas justement de Fabrice Payen. Alors pour eux, comme pour d'autres, le risque existe effectivement, mais il vaut la peine d'être couru, tout simplement parce que la Route du Rhum va devenir la vitrine qui va leur permettre de s'exposer auprès d'autres médias, d'autres sponsors, pardon, des sponsors qu'ils souhaitent engagé sur du plus long terme, sur des programmes, un programme de course et non pas seulement une course, avec en ligne de mire évidemment le Vendée Globe, ouais, en 2020, mais aussi en passant par la Transat Jacques Vabre en 2019.
Merci Valérie.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et on continue donc à parler de voile avec Virgile Caillé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en marketing sportif et Stéphanie Bérargest, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing de Charal qui est donc engagée également sur la Route du Rhum. Virgile Caillé, la voile semble quand même attractive pour les sponsors. Moi j'aimerais comprendre pourquoi il y a un tel engouement d'un coup pour la voile.
Alors d'un coup, je sais pas, c'est quand même un sport, une activité, des événements qui plaisent aux annonceurs depuis pas mal d'années quand même. C'est particulier, pourquoi? Parce que c'est un des seuls sports ou un des seuls événements où on cite les marques. Cette notion de citation est extrêmement importante, c'est le principe un peu du naming. Et donc évidemment, qui dit citation dit une mémorisation qui peut être améliorée. Sauf que pour qu'on améliore la mémorisation, il faut également que la marque porte déjà un peu de notoriété en elle-même, et puis ensuite qu'on raconte une histoire, qu'il y ait un peu de storytelling pour venir nourrir la marque, l'image de marque. C'est ce qui doit fonctionner au travers de la voile, et c'est ce qui intéresse évidemment les annonceurs.
Chez Charal, c'est la première fois que vous vous engagez sur la course au large?
Alors non, c'est pas la première fois. On a eu une première expérience, c'était il y a très longtemps, ouais. Je n'étais pas là à l'époque, c'était au début des années 90, la marque était toute jeune, elle avait quelques années d'existence, où on s'était engagé sur deux courses avec Loïc Perron notamment et Olivier de Kersauzon en 92. Et puis après, je dirais que la marque, elle est passée à une communication un peu plus classique, média, mass-média classique. Et on a eu la volonté de revenir en fait à ce sponsoring voile. Alors pour d'autres raisons, au début des années 90, on cherchait plus plutôt la notoriété à l'époque, puisque la marque se construisait. Aujourd'hui, c'est différent. On a une notoriété qui est forte et on recherche davantage les valeurs que l'on va associer justement entre la marque et la voile. Notamment, on a une nouvelle signature de marque depuis un an qui est Vivons Fort. Et on voulait incarner cette signature de marque et ce qu'elle présuppose en fait, qui est la notion pour nous de plaisir essentiel. Et donc on voulait valoriser à la fois la force, parce que derrière cette signature Vivons Fort, il y a la force physique liée à la consommation de viande, et la force mentale liée au plaisir en fait de cette consommation. Et pour nous, la voile traduit bien ces valeurs justement de force physique, de force de vie, force intérieure. Ça, c'est vraiment un point important, et traduit aussi des valeurs qui sont présentes dans la marque Charal depuis, qui sont dans son ADN, à savoir le plaisir et l'innovation, puisque c'est important aussi, notamment dans la voile, avec ce nouveau bateau qui est arrivé, cette valeur innovation est clé pour nous.
Est-ce que c'est important pour la marque, et puis en général pour les marques, de gagner? Est-ce que, après tout, comme ça dure très longtemps, que en effet, vous disiez, les bateaux portent le nom de leur sponsor, ça suffit pas à soi-même?
Alors non, ça ne suffit pas, et pour tout vous dire, c'est aussi un des dangers du sponsoring dans la voile. C'est très efficace parce qu'il y a la citation, mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est que finalement les temps forts, ce sont surtout le départ et l'arrivée si vous êtes premier, ou les incidents de course. Et ça, évidemment, c'est difficile à maîtriser, à anticiper. D'où l'importance depuis quelques années de ce qu'on appelle l'activation. C'est-à-dire comment on va faire vivre ses droits acquis. Je construis un bateau, j'engage un skipper, je me lance sur une aventure comme la route du Rhum, mais ensuite, comment je vais raconter mon histoire, comment je vais pouvoir effectuer ce transfert de valeurs, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est ça qui est important, ces valeurs d'authenticité, de liberté, d'aventure. La voile est un des sports qui procure le plus de valeurs. Donc la marque vient chercher cette adhésion, cette association aux valeurs, mais derrière, il faut donner du sens à cet engagement, c'est ce qui va justement donner cette efficacité au partenariat.
Oui, justement, vous parliez tout à l'heure de storytelling. Comment est-ce que vous, chez Charal, vous construisez votre storytelling avec Jérémy Bayou, votre skipper?
En fait, on l'a construit. Enfin, on va le construire là dans le temps, et on l'a construit dès le début du projet, avec justement tout le suivi de construction qu'il y a pu y avoir autour du bateau, où justement on a beaucoup mis en avant ces valeurs de force de vie, beaucoup mis en avant l'innovation aussi dans le bateau. On a fait suivre vraiment à notre public toute la construction
avec des contenus spécifiques alors.
Oui, avec beaucoup de contenus vidéo, beaucoup de contenus immersifs, beaucoup d'interviews des membres de l'équipe technique. De Jérémy. On a expliqué aussi nos choix techniques autour du bateau. On a fait suivre aussi au public le design, la construction de tout le design aussi autour du bateau. Donc c'est vrai qu'on construit aussi au fil du temps ces valeurs, justement en faisant suivre par des vidéos sur les réseaux sociaux, par tout ce que l'on met en place à nos consommateurs, tout le cheminement de la marque. Et puis donc il y a tout cet aspect média, mais il y a aussi, parce que nous c'est aussi pour ça qu'on va vers le sponsoring voile, c'est aussi pour communiquer différemment, de manière plus émotionnelle, plus expérientielle finalement avec le public. Et typiquement, un village comme la route du Rhum, on attend presque 2 millions de personnes sur le village. Et là, on a un stand sur le village qui nous permet d'aller à la rencontre du public. Et là, on va parler de nos expertises métiers, faire des parallèles justement entre le monde de la voile et l'univers de la viande. On va faire beaucoup d'activités sportives, encore une fois, c'est ça. Donc, on peut arriver sur notre stand là à la route du Rhum en charalienne. Donc c'est une tyrolienne version Charal, 84 mètres de descente pour arriver sur notre stand.
Ah oui, c'est sensationnel.
Ouais, chez Charal, on vit fort. C'est expérientiel. Les winches, faut wincher, faut essayer de battre Jérémy au winch pour justement, donc il y a tout ça. Et puis beaucoup de pédagogie aussi sur notre stand, avec des espaces dégustation où on a un peu transformé le produit spécial route du Rhum, justement pour aussi passer d'autres valeurs autour de la consommation et du plaisir à la consommation autour des produits.
Merci beaucoup Stéphanie Bérard Geste, directrice marketing de Charal, et Virgile Caillet, expert en marketing sportif. Alors les sponsors, vous le disiez, se servent évidemment de leur voile pour installer l'image de leur propre marque, mais aussi parfois ils voient plus large. C'est ce qu'a fait SMA avec l'apprentissage dans les métiers du bâtiment, les explications de Marie Valogne.
Depuis 5 mois, le bateau SMA navigue sous de nouvelles couleurs, celle de l'apprenti BTP Tour. Une campagne de communication pour valoriser l'apprentissage dans les métiers du BTP, filière dont SMA est l'un des principaux assureurs. Au printemps, le bateau a fait escale à Marseille pour rencontrer les élèves du lycée des métiers René Caillé. Bernard Coffapé, professeur de génie civil, se réjouit du message porté par SMA sur sa grand voile.
La visibilité du bateau SMA, voilà, donc va nous permettre également de faire comprendre au plus grand public que nos métiers du BTP évoluent, les techniques, la sécurité, l'ergonomie, les postes de travail. Donc, ça peut être un plus pour nous.
Cette semaine, sur le village de la Route du Rhum à Saint-Malo, le skipper Paul Meillat continue de faire découvrir son bateau à des apprentis. Il voit plusieurs avantages à ces rencontres.
C'est un déjà d'échanger avec les élèves, de montrer l'intérêt qu'on peut avoir à échanger ensemble, mais surtout aussi de se servir de la puissance de communication du bateau et des courses. C'est sûr que là, sur le départ de la Route du Rhum, il y a 2 millions de visiteurs qui vont venir. Donc si on fait la promotion de l'apprentissage, surtout des enfants, on est en période scolaire. Donc voilà, on pense que c'est vraiment des moments clés qui vont permettre à des gens de se dire « Ok, ça peut être intéressant pour moi ».
Et l'enjeu est important. Le secteur du BTP est une filière sous tension, alors que ses besoins de recrutement sont estimés à 200 000 dans les 5 prochaines années.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Comme un chef aujourd'hui avec Laura Le Goff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de la SAEM Vendée, société d'économie mixte qui organise en fait le Vendée Globe. Alors à votre capitale, on trouve le département de la Vendée, la ville des Sables-d'Olonne, la région Pays de la Loire, mais aussi 32 entreprises. Quel est l'intérêt pour ces entreprises d'être associées à l'organisation du Vendée Globe ?
Quand le département de la Vendée a racheté la société de Philippe Janteau qui a été mise en liquidation en 2004, l'intérêt c'était que le Vendée Globe reste dans le patrimoine du département. Et donc il y a eu un appel à la solidarité des entreprises vendéennes qui, comme on le sait, ont à cœur en fait de conserver leur patrimoine. Ouais. Donc l'intérêt c'était ça. Vraiment, c'était un acte de solidarité. Et aujourd'hui, du coup, les entreprises vendéennes sont vraiment associées à l'événement.
Mais justement, il y a parfois des entreprises qui sont à la fois au capital de la société organisatrice et sur les bateaux. Je pense à l'Amicaline, Maître Coq ou encore PRB.
Complètement, c'est pas incompatible.
C'est pas incompatible.
Et on a aussi des actionnaires qui sont aussi partenaires de l'événement. Par exemple, la société Sodebo, qui nous accompagne depuis le départ, est le partenaire privé majeur de l'événement, et ils sont actionnaires également.
Alors justement, en matière de financement, tout repose sur la SAEM. Comment ça se passe ?
Alors en matière de financement, l'événement repose principalement sur des partenariats. Donc le partenaire principal est le département de la Vendée. Nous avons la société Sodebo qui nous accompagne, la ville des Sables-d'Olonne et la région des Pays de la Loire. Et puis ensuite, on va chercher des partenaires, comme tout événement sportif, on va chercher d'autres partenaires, par exemple un timer officiel, une voiture officielle, on va chercher des partenariats techniques. Donc on complète le budget comme ça. Et puis aussi, le budget est complété par des recettes que l'on peut avoir, par exemple, dans l'exploitation des villages du Vendée Globe.
Alors, le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans. Comment est-ce que vous maintenez l'intérêt à la fois des sponsors, des partenaires, du grand public pendant les 4 années où il se passe pas grand-chose?
C'est une bonne question. On se pose souvent cette question-là. On se rend compte que c'est finalement... c'est plus simple qu'on ne le croit, parce que en réalité, et on l'a bien vu à la fin du précédent Vendée Globe, l'intérêt des skippers est absolument incroyable. À la fin de l'édition en 2017, on nous parlait déjà presque de 40 concurrents en lice pour 2020. Donc d'une certaine manière, on sait très bien que l'intérêt est là. Après, il faut, ce qui est peut-être plus difficile, c'est maintenir l'intérêt du grand public.
Ouais.
Et pour maintenir l'intérêt du grand public, on développe une vraie stratégie de communication via notre site web qui est alimenté chaque semaine par des articles d'actualité. On suit en fait l'actualité de nos skippers. On suit l'actualité des courses. Et puis aussi, on a mis en place avec la classe IMOCA, que vous avez rencontré tout à l'heure avec Antoine Mermot, un système de championnat qualificatif qu'on appelle le Globe Series. Et grâce à ce championnat, donc la Route du Rhum, et par exemple qui part bientôt, est une des courses de qualification du Vendée Globe. On raconte aussi une histoire en vue du prochain Vendée Globe.
Donc ça permet de maintenir comme ça l'intérêt, j'imagine, au fil des années. Merci beaucoup, Laura. Exactement. Le Goff. Je rappelle que vous êtes donc directrice générale de la SAEM Vendée, société donc d'économie mixte qui organise le Vendée Globe. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera un best-of d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.